Radio Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal de Radio Okapi dont voici les titres. L'insécurité dans les zones de conflit en République démocratique du Congo a fait de lourds dégâts parmi le personnel humanitaire. Le Bureau pour la coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, qui a livré un rapport à ce sujet hier, mentionne de nombreux acteurs humanitaires qui ont été tués, blessés ou enlevés. Autres dégâts à signaler dans ce journal, ce sont ceux causés par la pluie tombée hier à Kananga. Cette réaction de la nature a détruit arbres, maisons, véhicules dans la capitale du Kasaï central. La prise en charge médicale est devenue une vraie préoccupation à Shabunda. L'approvisionnement difficile en médicaments et l'insécurité sont à la base de cette situation qui ravage, surtout parmi les patients ayant besoin d'intervention chirurgicale. Le médecin directeur de la zone de santé de Shabunda est l'invité de ce journal pour évoquer cette situation. Bonsoir à tous. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a publié son dernier rapport de l'année passée sur la situation particulière des humanitaires hier à Kinshasa. Un rapport qui révèle que 13 humanitaires ont été tués, 40 blessés et autant d'enlèvements en RDC. Un rapport qui concerne surtout les deux Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et le Maniema, Jean Gandou.
En 2025, ce sont plus de 600 incidents qui ont visé les acteurs humanitaires dans l'est du pays. Le Nord Kivu détient le triste record de la province la plus risquée, concentrant près de la moitié des cas enregistrés. Selon ce rapport, c'est la province du Sud Kivu qui compte 50% des incidents du mois dernier, surpassant même le Nord Kivu. Une situation qui s'explique par les affrontements et l'insécurité grandissante sur les axes de distribution. Toutefois, le rapport note que toutes les menaces ne sont pas liées au combat. C'est sont des cas de cambriolage et vol qui arrivent en tête, suivis de près par les entraves à la circulation et les actes d'intimidation. En ce début d'année 2026, ce rapport sonne comme un cri d'alarme. Il appelle à une protection réelle pour ces humanitaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour soulager des populations prises au piège de la crise sécuritaire.
L'organisation de droits de l'homme, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, se félicite du bon encadrement assuré par les éléments de la police nationale congolaise lors de la manifestation publique et pacifique organisée il y a une semaine à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Dans un communiqué parvenu aujourd'hui à Radio Okapi, l'ONG indique que cette mobilisation des mouvements citoyens visant à dénoncer la recrudescence de la criminalité dans la cité de Kipushi et ses environs s'est déroulée dans le calme grâce au dispositif sécuritaire mis en place par la police. Récit de Grace Amzati et rendu ici de Nancia Tambo.
L'ONG souligne que les organisateurs de cette manifestation ainsi que les participants ont exigé l'ouverture d'enquêtes judiciaires afin que les auteurs répondent de leurs actes. Ils font notamment référence à l'assassinat dans la nuit du 30 au 31 décembre 2025 de trois personnes dont le défenseur judiciaire Fwamba, tué par des bandits armés à Kipushi. La VSV salue l'attitude responsable des autorités locales et provinciales qui ont facilité l'exercice du droit de manifester. Contrairement à ce qui s'était passé en décembre 2025 à Matadi, où des manifestations similaires avaient été violemment réprimées avec des arrestations, indique le communiqué. Pour l'Organisation de défense des droits humains, l'exemple de Kipushi devrait inspirer les autorités d'autres provinces afin de garantir le respect des libertés fondamentales, notamment le droit de manifester pacifiquement et d'éviter de ternir l'image du pays sur le plan régional et international. La VSV appelle enfin le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes, concrètes et efficaces pour assurer la protection des droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression et des manifestations sur toute l'étendue du pays.
En Ituri, les conditions de détention de la prison centrale de Bunia se sont sensiblement améliorées au cours de ces deux dernières années. Selon le médecin responsable de cet établissement pénitentiaire, le nombre des décès ainsi que celui des détenus malades a fortement diminué. Une amélioration attribuée aux efforts conjoints du gouvernement de la RDC et ses partenaires, notamment la MONUSCO et le Comité international de la Croix-Rouge dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, mais également de la construction des infrastructures. Isaac Raymond.
La prison centrale de Bunia compte actuellement environ 2100 détenus, parmi lesquels des adultes et des enfants, logés dans des cellules distinctes. Un bâtiment supplémentaire abrite désormais une infirmerie destinée à la prise en charge médicale des détenus. Ces infrastructures, construites notamment avec l'appui de la MONUSCO, ont également contribué à l'amélioration des conditions de détention. Les installations sanitaires, autrefois bouchées et insalubres, ont été réhabilitées. De son côté, le CICR a renforcé la desserte en eau potable, permettant de répondre aux besoins quotidiens des détenus, notamment pour la cuisine, la lessive et l'hygiène corporelle. Les gouvernements congolais apportent également des subventions régulières pour la prise en charge alimentaire des pensionnaires. Grâce à ces différentes interventions, le nombre de décès est passé d'environ 30 par mois il y a 2 ans à moins d'un cas de mort naturelle par mois aujourd'hui. Le nombre de consultations médicales quotidiennes a lui aussi nettement baissé, passant de 50 à une quinzaine par jour. Le docteur Willy Moutro, médecin responsable de la prison centrale de Bunia, exprime sa satisfaction.
Nous sommes satisfaits. Avant, la plupart des cas de décès, c'était lié à la mauvaise prise en charge. Les cas de transfert d'abord ont diminué, même les consultations.
Toutefois, malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent, notamment l'insuffisance alimentaire. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Province de l'Ituri, toujours, le centre commercial de Boulé, dans le territoire de Djougou, ressemble de plus en plus à une cité fantôme. Toutes les activités socio-économiques sur place restent paralysées, ce qui rend difficile la vie de la population locale de cette entité devenue le théâtre des affrontements entre l'armée de la République démocratique du Congo et les miliciens de la Convention pour la révolution populaire CRP de Thomas Lubanga, Martial Kiza.
Nous sommes au rond-point Vadjero, ici au centre commercial de Boulé. Le silence est total. Boutiques, magasins, officines pharmaceutiques et même le marché sont fermés. Des écoles et structures sanitaires ne fonctionnent pas. L'air agarre, la peur au ventre. Les quelques rares habitants que nous racontons ne savent à quel sein s'avouer. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, le retour de la paix dans leur entité pour permettre le retour des déplacés et la reprise normale des activités. Car environ 90% de la population du centre des négoces de Boulé s'est réfugiée vers la plaine Savo, fuyant les affrontements entre les FRDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Des sources sécuritaires confirment par ailleurs que de nombreux miliciens de la CRP sont dissimulés parmi les quelques habitants restés sur place. Ce vendredi matin encore, la tension restait vive entre ces miliciens visibles au centre commercial de Boulé et les FRDC repliés sur la colline à moins de 3 km de la cité. Une situation qui accentue davantage la peur et l'incertitude parmi la population de cette entité. Depuis les ronds-points Vadjero à Boulé Centre, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Les chefs de confession religieuse de Beni Butembo et Lubero, conduits par l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, ont échangé hier avec le gouverneur du Nord Kivu en mission à Butembo. Le général Évariste Kakule Somo a discuté avec ces hommes des dieux de la situation sécuritaire dans la zone sous son administration, marquée ces dernières années par les attaques des ADEF dans le sud du territoire de Lubero, ainsi que par l'insécurité persistante dans d'autres agglomérations. Et selon l'abbé Aurélien Rukwata, président de la commission justice et paix du diocèse catholique de Butembo-Beni par exemple, le gouverneur a rassuré ses interlocuteurs que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité de la population. Il s'exprime dans cet extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
Nous avons parlé des préoccupations de la population, non seulement de la ville de Butembo, mais de toute la région qui est contrôlée par son excellence le gouverneur, la situation socio-sécuritaire dans l'ensemble qui se dégrade. Et nous avons eu à lui partager les préoccupations liées aux tueries, aux tracasseries de barrières, cette fluctuation sur la route Beni Butembo et tant d'autres difficultés que nous avons, que nous connaissons ici et qui font que la cohésion sociale est en train de s'effriter progressivement. La réponse de son excellence le gouverneur a été dans le sens de nous partager les mesures qui ont été prises pour faire face à cette préoccupation légitime de la population. Il y a des mesures qui peuvent être connues, qui seront connues, et d'autres qui restent sur le plan stratégique que je ne peux pas divulguer maintenant. Mais dans l'ensemble, nous avons convergé pour que tout soit fait, pour que la population puisse retrouver sa quiétude.
Nous vous l'avions mentionné en début de ce journal, à Kananga, la forte pluie qui s'est abattue hier dans la ville a causé plusieurs dégâts dans différents quartiers. Des maisons ont été notamment détruites, des voitures emportées et des arbres déracinés. André Katende.
C'est depuis la matinée du jeudi que la ville de Kananga était arrosée par une forte pluie qui s'est abattue pendant de nombreuses heures. Elle a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville. Par exemple, dans la localité de Dikou, sur l'avenue Likassi 2, les eaux des pluies sont sorties des caniveaux, détruisant la route et envahissant les habitations. Selon Pascal Kankonde, chef de la localité de Dikou, le caniveau est bouché par un arbre abattu par un habitant du coin. Il invite ses administrés à curer les lieux de ruissellement des eaux afin d'éviter pareils dégâts à l'avenir. Ces précipitations ont également entraîné l'élargissement de plusieurs têtes d'érosion à de nombreux endroits dans la ville de Kananga. Kananga, André Katindengala Mulume, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les écoles de la province éducationnelle Tchopo 2, installées dans le territoire d'Opala, n'ont pas fonctionné aujourd'hui et pour cause, le non-paiement des salaires des enseignants depuis 3 mois par la Caritas diocésaine d'Isangi. L'administrateur du territoire d'Opala, qui confirme cette information, dit être de cœur avec eux, car souligne-t-il, ces enseignants n'ont jamais été payés en temps utile. Jacques Mkongolé pour le récit.
Les enseignants du territoire d'Opala n'ont pas encore touché leur salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Toutes les démarches menées auprès de l'agent payeur et des autorités politico-administratives n'ont toujours pas abouti. Voilà pourquoi ils ont décidé de sécher les cours et descendre aujourd'hui dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol pacifiquement. Ce manque de salaire leur contraint de vivre comme des clochards, déclare leur président syndical Bienvenue Ndafou.
Nous vivons très très mal à Opala, c'est très malheureux parce que nous sommes devenus comme les mendiants, hein. Vraiment, il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi nous déplorons auprès des autorités et surtout à notre chef direct ici, l'administrateur. C'est lui qui pouvait faire le tout pour remonter les informations au niveau hiérarchique.
L'administrateur du territoire Médard Elongué dit avoir informé sa hiérarchie de cette situation qui met en mal la vie de ses administrés. Jusque-là, aucune réponse de la Caritas de ses ennemis sanguins. Toutefois, son directeur a toujours déclaré que le retard de paiement est dû au non-versement à temps de l'enveloppe salariale par le gouvernement à travers l'organisation financière IFOD. Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Kindu, on n'est pas loin de la même situation que celle de la Tchopo, car les enseignants de la ville continuent de réclamer leur salaire. Hier, ils ont organisé un sit-in au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, au gouvernorat et à la Caritas Développement Kindu. À l'Assemblée provinciale, ces enseignants ont lu et déposé leur mémorandum au président de l'organe délibérant, sollicitant son implication pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, Florence Kiza.
Nous irons jusqu'au bout.
Ces enseignants en colère exigent que le gouvernement cherche un autre prestataire par lequel leur salaire va transiter. Ils en ont marre de la Caritas qui, selon eux, ne parvient pas à libérer leur salaire à temps. Misenga Chamilungu, permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko de Nyoka et ses environs.
1. Rupture avec la Caritas et Kindu afin de nous transférer dans l'une des banques de préférence Tembe. 2. Paiement de 2 mois de salaire, dont novembre et décembre, ainsi que la restitution de 80 000 francs des primes de gratuité des enseignants de l'école primaire, y compris les frais de fonctionnement.
Le secrétaire provincial du Sieko Maniema, Maulu Mwenda Mukute, fait savoir que si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, les enfants paient les prix.
L'éducation est un instrument de libération d'un peuple. Et si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et s'il ne donne pas le meilleur de lui-même, ce sont les enfants qui en paient les frais.
Le vice-président et président intérimaire de l'Assemblée provinciale a qui ils ont remis leur mémorandum, a promis d'inviter les gouverneurs et les ministres sectoriels pour traiter de cette question. Théophile Bouléli, docteur.
Nous vous rassurons, à partir du lundi, nous allons inviter le gouverneur de la province, qui sera accompagné par son ministre de l'éducation, et nous allons tout faire pour trouver une solution à votre cri d'alarme.
Malgré cette assurance de l'Assemblée provinciale, les enseignants durcissent leur mouvement de grève. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, exprime sa satisfaction du travail qu'il a accompli 5 mois après sa prise de fonction à la tête de ce ministère, lors du briefing de presse co-animé hier avec son collègue de la communication et médias. Il a indiqué qu'au cours de cette période, 324 dossiers par exemple ont été ouverts à l'encontre des magistrats. Guillaume Ngefa précise que certains de ces magistrats ont été condamnés à des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation. Il se réjouit également d'avoir institutionnalisé la lutte contre la corruption à travers le pays. Les propos de Guillaume Ngefa sont ici recueillis par Blaise Ndongala.
Plusieurs dénonciations émanant de justiciables et des avocats ont été traitées. Nous avons reçu 324 dossiers ouverts à charge des magistrats, dont certains ont été condamnés à des peines disciplinaires et d'autres condamnés au pénal. Et bien sûr, il y a eu des révocations et des poursuites pénales ont été prises, traduisant ici une nette rupture avec la culture de l'impunité. J'ai eu des contacts avec les différents bâtonniers pour que ceux qui participent dans la chaîne criminelle puissent être tenus responsables. Donc des avocats, huissiers de justice, autres membres du personnel judiciaire impliqués dans ces actes-là n'ont pas été épargnés. D'abord, la lutte contre la corruption a été institutionnalisée. C'est l'une de nos priorités. Nous avons reçu plus de 400 dénonciations émanant des institutions étatiques, y compris des ministères, et des particuliers ont été réceptionnés en cours de traitement. Donc 30% concernent les biens fonciers et immobiliers de l'État. À cet égard, 13 injonctions encore emblématiques, formelles, adressées au procureur général après la Cour de cassation sur ces dossiers sensibles liés à la spoliation immobilière et à la fraude minière.
Actualité internationale.
La Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se joue depuis bientôt 3 semaines au Maroc, entre aujourd'hui dans la phase des quarts de finale. En ce moment même se joue le match Sénégal-Mali, qui sera suivi à 20h heure de Kinshasa par la rencontre Cameroun-Maroc. Demain, Algérie et Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire clôtureront ces quarts de finale. L'invité. La prise en charge médicale est devenue une vraie préoccupation à Chabunda. L'approvisionnement difficile en médicaments et l'insécurité sont à la base de cette situation qui fait même que la plupart des patients qui nécessitent une intervention chirurgicale soient voués à perdre leur vie. Le médecin chef de zone de santé de Chabunda, docteur Kiatuga Guillaume, en parle avec Jean Kassami.
Docteur Kiatuga Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour Jean Kassami.
Vous êtes médecin chef des zones de santé du territoire de Chabunda. Dans quelles conditions vous vous approvisionnez actuellement au regard des voies d'accès qui ne sont pas accessibles à cause de la guerre?
Présentement, l'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Chabunda est très difficile et très compliqué. Nous nous approvisionnons difficilement à Kindu parce qu'on n'a pas de route entre Chabunda et Kindu. Là, ceux qui y partent, ils nous amènent les médicaments sur vélo. Dès qu'on achète le médicament et on emballe le médicament et on amène ce médicament par vélo. Et aussi, à ceux qui ont des moyens, ils vous achètent le médicament à Beni, parce qu'il y a des avions qui quittent Chabunda pour Beni. Mais le fret coûte énormément cher, 1 kilo pour 3,5 dollars. Et vous comprenez avec moi, le panier ménager est trop bas à Chabunda, et aussi nous vivons dans un état de guerre là où tout ne fonctionne pas.
Alors ces tableaux sombres que vous venez de peindre là, a-t-il des inconvénients sur les soins des malades?
Nous avons plus le flambé des réfugiés qui viennent des villages environnants et d'autres qui sont venus vers Bukavu, et tous sont versés à Chabunda, et avec comme conséquence, comment est-ce qu'un malade peut s'approvisionner en médicaments alors qu'il n'a pas d'argent? Et si aussi l'hôpital n'est pas appuyé, penses-tu que l'hôpital va soigner les malades? Voilà, les inconvénients sont multiples, mais nous remercions le gouvernement central parce qu'il nous a offert quelques molécules de médicaments et les médicaments étaient arrivés.
Et c'est pour ces raisons-là qu'on enregistre également des cas de décès lors de la chirurgie dans certains centres de votre zone de santé.
Oui, monsieur le journaliste, nous avons enregistré plus de décès. Au courant de ce mois de décembre, nous avons enregistré 9 cas de décès, dont 5 femmes par césarienne et 9 hommes ou de sexe masculin par des interventions toujours. Et tous ces 9 décès ont été faits dans des structures pirates et privées, orchestrées par quelques autorités locales.
Sinon, comment pensez-vous qu'il faille faire pour éviter tous ces cas?
Même si moi, le monsieur chef de zone, j'interdis ces pratiques, et voilà encore, ils vont courir derrière quelques autorités pour que ces structures-là soient réouvertes encore. Alors, je m'étais décidé en tant que zone de santé, le représentant du ministère, de donner des sanctions dans ces structures, à ces structures. Mais malheureusement, ces sanctions-là étaient tombées caduques. Vous imaginez, monsieur le journaliste, tous ces décès ont été commis à quelques mètres de l'hôpital général de référence. Et ces décès-là, il y a quelques médecins de l'hôpital général de référence qui y font par orgueil. Il y a aussi d'autres médecins qui se disent, alors qu'ils ne sont pas médecins, ils se couvrent soi-disant médecins, mais si vous regardez leur cursus, soit il n'a pas encore terminé à étudier, ou soit il avait fui la faculté de médecine. Alors, tous ces décès-là ont été faits dans les structures privées qui ne regorgent même pas un minimum de plateau. Et voilà, je reviens maintenant à ce sujet pour appeler les autorités locales, provinciales et nationales, même le partenaire international, de nous aider à balayer ce fléau-là qui transforme ces structures privées en un abattoir. Je réitère aussi et je remercie la radio Okapi pour cette diffusion et de nous aider aussi à vulgariser ce message auprès des autorités nationales et provinciales.
Docteur Kiatougou Guillaume, nous vous disons merci.
Je dis et je vous remercie, monsieur Jean Kassami.